Chapitre 3. 9 novembre 2010. Elle a fait semblant d'écrire pendant que Mokhtar lui dictait ses dernières volontés. On ne les connaîtra jamais. C'est parce qu'elle appréhendait sa mort. Les noter, ça aurait matérialisé un cauchemar qu'elle refusait d'affronter. Ça m'étonne pas d'elle. Rien ne venant d'elle ne m'étonne. Elle a quand même fait croire à sa propre mort pendant 3 ans. La veille de son enterrement, elle a téléphoné chez moi. Elle savait que j'étais seule. Elle a dit
« Aimé, c'est moi. Je ne suis pas morte. Ne dis à personne que je ne suis pas morte. Surtout, à personne. »
Je pense qu'elle a répété « à personne » au moins 10 fois. Et elle a ajouté
« Je t'aime, tu sais. Je t'emporte pour l'éternité. »
Avant de raccrocher. Elle avait peur. J'ai entendu qu'elle avait peur, alors j'ai rien dit. Après, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. À en devenir fou, j'ai pensé que j'avais peut-être rêvé cet appel, ou qu'il s'agissait d'un canular. Que ce que j'avais pris pour sa voix apeurée n'était tout simplement pas celle de Colette, mais celle de quelqu'un qui voulait nous blesser tous les deux. Jusqu'à ce qu'on la découvre il y a 15 jours. Quand je pense qu'elle vivait à 200 mètres de chez moi. Et pas un signe. Ses funérailles auront lieu la semaine prochaine à Lyon. Elle a souhaité être incinérée et rejoindre mes parents. L'information va paraître demain dans les avis de décès, mais je voulais vous l'apprendre avant. Aimé Chauvel ne répond pas, m'observe. Ses cheveux sont blancs, ses traits se sont épaissis. Il a l'air immensément triste. J'ai beau chercher, je ne retrouve pas son beau visage, sa prestance sur les photos de foot. Aimé, pardon de vous poser cette question aussi abruptement, mais quelle était la nature de votre relation? Il sourit tristement avant de répondre. Je l'aimais. Nous marchons côte à côte, emmitouflés dans nos manteaux autour du stade Jean Laville. Il n'y a pas âme qui vive, sauf peut-être celle de Colette près de nous. J'ai téléphoné chez lui et ai proposé que nous nous retrouvions ici, loin du centre-ville où des curieux auraient pu se demander ce que nous faisions ensemble, lui l'ancien footballeur et moi la cinéaste. Colette parlait beaucoup de vous. Elle était très fière de votre travail. Elle adorait vos films. Quand ils sortaient au Danton, elle allait à toutes les séances, celles du soir et du dimanche après-midi. Quand un de vos films était à l'affiche, j'étais sûre de la voir. Alors moi aussi, j'y allais. Il parvient à peine à prononcer ces derniers mots, submergé par l'émotion. Nous le sommes tous les deux. Je savais qu'elle voyait mes films, mais j'ignorais qu'elle se rendait à toutes les séances. Elle ne m'en parlait pas, ne faisait aucun commentaire. Nous continuons à déambuler sans rien dire. Je me permets de lui prendre le bras. Sa douleur me transperce. Nos douleurs se rejoignent pour nous apaiser. Je l'aimais. Je l'ai toujours aimé. J'étais un jeune chien fou quand je l'ai rencontré. Elle était déjà réfléchie. J'aurais été incapable de la draguer. Je ne savais pas que je l'aimais. Qu'avoir envie d'être tout le temps avec la même personne, c'est être amoureux. J'étais programmé pour être avec la plus jolie fille de Guignon, pas la cordonnière de 12 ans mon aînée. Et puis on ne draguait pas Colette Septembre. On devenait footballeur pour qu'elle s'intéresse à vous. On tentait d'être bon sur le terrain. Je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue si Colette n'avait pas existé. Il fait une longue pause, souffle dans ses mains et finit par me demander. Vous habitez dans sa dernière maison au Fredin?
Oui.
J'ai vu votre Méhari garé devant. Vous y êtes seul?
Oui.
Vous avez retrouvé sa collection du FCG?
Oui, elle l'a gardée.
On peut y aller, je veux dire, tous les deux maintenant,
bien sûr.
Nous remontons dans nos voitures respectives. Il me suit et se gare derrière moi devant la maison. Après être entré dans le jardin, et au moment où nous allons pénétrer dans la maison, Aimée s'arrête soudain. C'est vrai qu'elle est morte dans son lit?
Oui, dans son sommeil.
La porte est fermée?
La porte? De sa chambre, oui.
Soulagé, il m'emboîte le pas, fait le tour des pièces.
reste statufié devant sa chambre. Dans la pièce de la machine à coudre, je lui montre le placard en formica dans lequel se trouve sa collection classée par année. Les larmes aux yeux, il effleure les couvertures recouvertes de papier Kraft. « Vous avez du café ?» me demande-t-il comme s'il commandait un remontant ou un digestif. « J'ai acheté une petite machine pour faire des expressos, tatane avec une vieille cafetière avec les filtres et tout. »
« Vous l'appeliez Tata ?»«
Jamais, je l'appelais Colette. » Et quand je parlais d'elle, je disais « Tante Colette », je m'en souvenais plus. C'est vous qui me le rappelez. Nous nous installons sur le canapé du salon. Il remarque aussitôt mon matelas gonflable au milieu de la pièce, ainsi que la vieille valise posée par terre. « Je campe ici. Je vais avoir du mal à repartir. Je vais vous faire un aveu, aimé. Un aveu étrange, mais... Je n'ai jamais été aussi bien qu'ici. C'est une parenthèse qui va s'achever après les funérailles et que je n'oublierai jamais. Vu de l'extérieur, ça n'a rien de réjouissant, mais dans la vie, enfin dans la mienne, si. Je me dirige vers la valise pour l'ouvrir et lui désigne toutes les cassettes numérotées. Sur l'enregistrement de la numéro 20, Colette parle de vos 18 ans. De votre soirée d'anniversaire dans le studio que vous habitiez au-dessus du café Tillet. Il ne répond pas, n'a pas enlevé son manteau, comme s'il se tenait prêt à partir, à bondir hors d'ici. Il maintient sa tasse au bord de ses lèvres. Il est présent et absent. Je le sens tourmenté par la situation et par ses souvenirs, par cette maison, par les silences de Colette. Son regard m'encourage à poursuivre. Ses yeux déborde de questions. Elle m'a laissé des cassettes sur lesquelles elle raconte sa vie, une sorte de testament ou de témoignage. Vous connaissiez l'existence de ce magnétophone ? Comme il semble incapable de répondre, je poursuis. Il m'a appartenu. Je l'ai oublié chez elle. J'ignore pourquoi, mais un beau jour, elle a décidé de s'enregistrer pour me parler. Un soir, je suis arrivée chez Colette et je l'ai entendue parler. J'ai cru qu'elle était avec Blanche. En fait, elle devait être avec vous, en pensée. C'était il y a longtemps ? 5 ans environ. Depuis que je suis mariée, je suis toujours venue la rejoindre à pied quand il faisait nuit. Jamais en journée. Ici, les gens parlent trop, ils n'ont que ça à faire. Parler, et surtout, ils pident.
Ils quoi ?
Ils guettent. Pider, c'est un mot d'argot que les anciens d'ici utilisent et qui leur va comme un gant.
Vous ne vous êtes jamais perdu de vue, Colette et vous ?
À une période, j'en ai voulu à mort, pour une histoire de clé. Et j'ai fini par revenir. Je retrouvais toujours Colette à des heures tardives, même après que Blanche était arrivée.
Il soulève le trousseau qu'il a posé sur la table basse.
J'ai toujours eu un double, je l'ai gardé.
Il vient de m'avouer qu'il retrouvait Colette au beau milieu de la nuit.
Cela ne fait donc aucun doute, lui et elle étaient amants.
Je crève d'envie de lui demander s'il venait déjà lorsque j'étais en vacances. Mais par tous les saints, comment aurais-je pu croire, imaginer que ma toute petite bonne femme de tante recevait un homme dans sa chambre, un homme marié ? Comment ai-je pu être aussi aveugle et sourde aux signes, aux bruits, aux parfums ? À l'écharpe ou aux deux verres qu'on oublie sur la table. Moi, une cinéaste dont le quotidien se nourrit uniquement de ses observations visuelles et sensorielles. Aimé finit son café, remarque mon trouble, déplie son mètre 88 et se dirige vers la valise. Il s'agenouille pour observer les cassettes les unes après les autres et finit par en saisir une, qu'il me tend.
Je peux l'écouter, s'il vous plaît.
Je n'ai pas le cœur à refuser. J'ouvre le clapet du magnétophone et glisse la cassette à l'intérieur. La voix de Colette le fige, dès les premiers mots. Quelques secondes passent avant qu'il demande de l'arrêter en se tenant la poitrine. J'interromps l'enregistrement. Il quitte la pièce, chancelant. Je l'entends dans la salle de bain faire couler de l'eau. Il revient, les yeux rougis. Il s'assied à nouveau sur le canapé.
C'est bon, je suis prêt. On peut continuer.
Il ferme les yeux et je laisse défiler l'enregistrement.
Ce soir-là, chez Aimé, en me voyant dans le miroir,
J'ignore si c'est le champagne, la musique, le rythme cardiaque d'Aimé contre mon oreille, mais j'avais rajeuni. J'avais l'air encore plus jeune que le jour où j'étais partie faire mon apprentissage chez Mokhtar. Je me suis aspergée le visage et la nuque. À l'époque, j'avais encore les cheveux mi-longs. Je les avais ramenés dans une barrette pour aller chez Aimé. Je les ai détachés.
Après ces mots, Colette cesse de parler pendant 10 minutes. Aimé rouvre les yeux et profite du silence pour se lever. Il est d'une extrême pâleur. Il met un certain temps à trouver ses mots.
Je repasserai tout à l'heure, Agnès. Ou demain. Enfin, je repasserai. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance.
Il disparaît dans le couloir. J'entends la porte de l'entrée se refermer derrière lui. Dans la rue, le moteur de sa voiture qui s'éloigne. Dans la pièce, flotte son parfum boisé. Je sais qu'il ne reviendra pas.